I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lors de la campagne présidentielle 2022, à la surprise de beaucoup, le candidat Emmanuel Macron promet de supprimer la redevance audiovisuelle. Une mesure selon lui en faveur du pouvoir d'achat des Français. Née il y a 89 ans, la contribution à l'audiovisuel public a pour but de financer la télévision et la radio publique. La compensation qui passe par la TVA n'est pas pérenne puisqu'elle ne pourra pas aller au-delà de 2025. Si la plupart des personnes concernées de près ou de loin sont d'accord pour le fait de trouver une solution, les différentes propositions de financement, elles, divisent. Dans cet épisode bonus, Siècle Digital s'est donc entretenu avec l'un de ses acteurs concernés. Il s'agit d'Inaki Echanize, député PS des Pyrénées-Atlantiques, membre de la Commission des Affaires Culturelles et de l'Éducation. Vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de Siècle Digital. Bonne écoute. Bonjour Inaki Echanize.
Bonjour.
Alors vous êtes donc député PS, Parti Socialiste des Pyrénées-Atlantiques, et vous êtes membre de la Commission des Affaires Culturelles et de l'Éducation. Avant de commencer à parler de la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, qui est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, j'aimerais vous demander une chose en quelques mots pour que nos auditeurs comprennent bien en quoi consiste cette commission et votre rôle en son sein.
Alors cette commission, elle consiste à traiter des sujets qui sont liés à son titre, hein, les affaires culturelles, de l'éducation et aussi des sports, c'est-à-dire qu'on travaille sur les éléments législatifs, les différentes réformes qui sont liées à ces trois grandes thématiques. Et au-delà de ce travail législatif d'actualité, on travaille aussi sur des grands sujets qui concernent ces thématiques-là, qui ne sont pas forcément à l'ordre du jour politique, mais c'est des réunions avec des députés, des différentes sensibilités qui sont représentées à l'Assemblée nationale, qui nous permettent de réfléchir et de faire des propositions sur des sujets concrets qui sont liés à l'éducation, à la culture et au sport. Donc on parle notamment en ce moment des Jeux Olympiques, mais aussi de la situation dans les écoles et de l'accès à la culture, et notamment ces dernières semaines sur la suppression de la taxe de la redevance sur l'audiovisuel.
Et justement, c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Des propositions, vous, avec certains de vos collègues de gauche, vous en avez fait pour ce sujet de la redevance audiovisuelle. Alors, la redevance ou contribution à l'audiovisuel public, c'est une redevance qui était de 138 euros par an en métropole, 88 pour l'outre-mer. Emmanuel Macron a acté sa suppression pendant la campagne présidentielle de 2022, arguant que c'était alors pour le pouvoir d'achat. La majorité, par moment, a ensuite affirmé que de toute façon, elle était payée avec la taxe d'habitation, qui elle aussi allait être supprimée, donc il fallait bien changer le mécanisme. Bon, essentiellement, l'explication principale, c'est le pouvoir d'achat. Première question là-dessus, est-ce que cette annonce d'Emmanuel Macron vous a surpris ?
Alors, elle faisait partie de ces éléments de campagne, de ces promesses de campagne, donc ça ne nous a pas surpris sur le fond, ça nous a surpris sur la rapidité d'exécution et de mise en marche de cette suppression de la contribution, d'autant qu'elle n'avait pas eu la possibilité, en tant que commissaire justement des affaires culturelles et de l'éducation, on n'a pas eu la possibilité de débattre, d'échanger sur cette question. Ça a été mis à l'ordre du jour, sans même que les représentants du peuple, les députés, puissent échanger dans la commission qui leur revient. Donc c'est ça qui nous a surpris dans un premier temps. Et puis, il y a aussi cet argument d'en faire une mesure de pouvoir d'achat, alors que ce n'est véritablement pas le cas. Ce n'est pas une mesure de pouvoir d'achat. 138 euros, c'est important pour les ménages.
11,50 euros par mois, oui.
Au vu quand même de ce qui s'est passé derrière, on y reviendra peut-être. Aujourd'hui, ce n'est plus une mesure de pouvoir d'achat, c'est une mesure injuste, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un financement par la TVA.
Et justement, qu'est-ce que vous pensez de ce financement par la TVA? Donc pour nos auditeurs, je rappelle que bon, le Sénat aussi hein, a voté dans la douleur la loi de finances qui contenait ce mécanisme, ce nouveau mode de financement de l'audiovisuel public. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment pérenne. C'est remplacé par une fraction de la TVA, du coup la redevance de l'audiovisuel public. D'ailleurs, on pourrait plutôt parler de compensation plutôt que de remplacement. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, c'est tout simplement de l'enfumage. Le gouvernement a voulu se précipiter, a voulu faire de cette suppression de la contribution un effet d'annonce en disant, voilà, en faisant croire aux Français qu'il allait leur rendre du pouvoir d'achat sans même consulter ni les députés, ni même les parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs de l'audiovisuel public, et qu'il s'est retrouvé un petit peu face à lui-même en se disant, ben, en fait, on supprime. Mais par quoi on remplace ? Parce qu'il faut bien le financer, l'audiovisuel public. Et donc, c'est nous, on est monté au créneau en disant « Mais attendez, ce n'est pas possible d'agir de cette façon-là. Ce n'est pas possible de supprimer de but en blanc quelque chose qui est essentiel au fonctionnement d'un service public. » Et face à cette contestation et face à nos propositions aussi de créer une contribution audiovisuelle universelle.
On y reviendra, oui.
Les députés et le gouvernement s'est rendu compte qu'ils avaient été un petit peu trop vite en besogne. Et donc, il fallait sortir et trouver une solution. Donc, ils ont sorti du chapeau. Cette partie de la TVA qui est l'impôt le plus injuste en France, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le paye et de façon disproportionnée par rapport aux revenus des uns et des autres. Donc, ça revient à la pire chose qui pouvait être faite. Nous, on partageait le fait qu'il fallait réformer cette contribution parce qu'elle s'appuyait notamment sur le fait d'avoir un téléviseur dans son salon. On sait très bien qu'aujourd'hui, les modes de consommation de l'audiovisuel, que ce soit la radio, la télé, les podcasts, tout ce qui fait ce service public,
tout ça évolue.
On n'est plus le soir en famille devant la télé. Voilà, il y a des familles qui n'ont pas de téléviseur. Donc, il fallait réformer tout ça. Et il fallait aussi donner dans cette situation où aujourd'hui les fake news se multiplient, où l'audiovisuel est chamboulé par de nouveaux modes de consommation, mais aussi de nouveaux acteurs, des acteurs privés qui rentrent de force dans le système de la presse et de l'information. On le voit aujourd'hui, hein, notamment avec Vincent Bolloré et CNews qui fait de cette chaîne de télé un bras politique pour sa vision du monde et sa vision de la société. Il fallait donner des moyens au service public de pouvoir exercer ses missions, de pouvoir se projeter dans le temps. Et c'est l'une des choses qui a été le plus mis en avant par les responsables de France Télévisions, de la radio et de ces acteurs-là, c'est de dire qu'ils n'ont pas de visibilité aujourd'hui sur leur avenir et sur leur possibilité de financer tel ou tel projet.
Sur ce financement de la TVA, justement, il y a aussi un autre problème, c'est que ce financement, et c'est le problème qui est pointé du doigt le plus souvent avec cette partie, ce financement par la TVA, c'est qu'il y a la réforme de modernisation des finances publiques qui a été adoptée en décembre dernier, qui va empêcher de financer une chose par la TVA s'il n'y a pas de lien direct. Et c'est vrai qu'un impôt indirect sur la consommation comme la TVA et l'audiovisuel, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Donc en fait, à partir de 2025, la TVA ne pourra plus servir de financement. Donc le financement, au final, n'est pas pérenne. Est-ce que ce n'est pas là le plus gros défaut de ce mode de financement ?
Mais bien évidemment, c'est que ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu de faire la TVA. Ils l'ont sorti du chapeau parce qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait bien financer. Et c'est pour ça que c'est une situation un peu buesque. Et justement, après ça, l'Assemblée nationale a constitué un groupe de travail au sein de la commission sur l'avenir du financement de l'audiovisuel public, justement pour réfléchir à qu'est-ce qu'on faisait après 2025. Et nous, ce qu'on dit, c'est bien d'avoir fait ce groupe de travail-là avec l'ensemble des sensibilités représentées, mais il aurait fallu le faire avant la suppression. Rien n'était urgent pour supprimer cette redevance. Donc, il fallait travailler avant, faire des propositions, réfléchir ensemble sur quelles solutions pérennes on pouvait envisager pour la suite. Mais non, le gouvernement a choisi de passer dans la précipitation sans réfléchir et de travailler après coup. Et c'est nous un petit peu ce qu'on dénonce. Et surtout, ce débat-là a permis au Rassemblement national de dire une nouvelle fois sa volonté de tout privatiser. Et donc, c'est une porte ouverte, le fait d'avoir supprimé de but en blanc cette contribution. Ça ouvre les portes à la possibilité du Rassemblement national, s'il vient un jour au pouvoir, à privatiser, d'autant qu'on est passé du coup sur un objectif de budgétisation qui met en danger l'indépendance des médias et des lignes éditoriales des différents médias publics. Et puis, au-delà, ce qu'on n'a pas assez parlé, et ce qui n'a pas assez fait assez de bruit, c'est que quand on supprime Le financement des services publics de l'audiovisuel, ce n'est pas simplement, comme les gens peuvent le penser, France 2, France Inter ou France 3 qui sont menacés. C'est aussi tout un système culturel qui est mis en danger, toutes les associations de production, tous les artistes qui sont accompagnés, financés, mis en avant par ces services publics-là, qui vont être touchés parce qu'à l'heure actuelle, les directions de ces groupes ne savent pas comment ils vont financer leur avenir. Donc, ils ne peuvent pas se projeter sur l'accompagnement, la formation, de la mise en avant des futurs ou même des acteurs culturels qui font la une aujourd'hui. Et ils ne vont pas pouvoir dénicher les futurs talents de demain du milieu culturel français. Et c'est ça qui est mis en danger par cette suppression.
En effet, la galaxie de l'audiovisuel public est bien plus large qu'on pourrait le penser. On l'oublie trop souvent. Il y aura aussi, il faut le noter, une hausse de... même si ça peut sembler infime pour certains, 3% au final du budget de l'audiovisuel public, de 3,7 à 3,8 milliards pour cette année. J'aimerais vous poser une autre question. Au final, pour vous, je pense connaître la réponse, pour vous, c'est une mesure électoraliste, opportuniste de la part d'Emmanuel Macron qu'il a promis en pleine campagne présidentielle et en pleine crise du pouvoir d'achat surtout.
Bien évidemment que c'est une mesure électoraliste et d'autant qu'elle ne correspond quand on regarde le fond des études, et on a notamment travaillé avec Julia Cagé sur cette question-là, quand on regarde le fond des études, les Français n'y sont pas forcément favorables à cette suppression-là. Il y avait la nécessité de réformer, ils disaient que c'était plus adapté, mais les Français sont attachés au service public de l'audiovisuel. Donc, ils n'étaient pas pour définancer. Et quand on regarde ce qui se fait dans les pays nordiques, ce qui se fait dans les autres pays où la contribution est faite de manière différente, on sent l'attachement des gens à leur audiovisuel public et leur volonté de participer à son financement. Aujourd'hui, on est sur des abonnements pour Netflix, Amazon Prime et plein de plateformes
de streaming, oui.
De streaming où les gens payent et parfois un prix conséquent et qui augmente, alors que nous, ce qu'on proposait, c'était justement cette contribution audiovisuelle universelle et progressive qui permettait justement de faire de vraies mesures de pouvoir d'achat où 85% des foyers, grosso modo, auraient payé moins que 130
c'est
euros.
Ça.
Et notamment pour les 10% les plus modestes, ça aurait été entre 0 et 30 euros par an. Mais ça permet de créer un lien entre les Français et leur service public de l'audiovisuel.
On reviendra un peu plus en détail juste après ma prochaine question sur votre proposition justement et sur une autre encore qui a été faite par les Républicains. J'aimerais avant avoir votre avis sur une dernière chose. Serge Siminaud, qui est journaliste France Télévisions, ancien candidat à la présidence de France Télévisions et membre du Syndicat National des Journalistes, a affirmé qu'il s'agissait d'un tour de passe-passe du président de la République et surtout que derrière il y avait une volonté d'affaiblir le service public. Est-ce que vous pensez vraiment que le président de la République, que la majorité a une volonté d'affaiblir le service public?
Honnêtement, sans tomber dans ces propos-là, on peut se poser la question, parce que oui, parfois, le service public dérange quand voilà, il y a des émissions phares comme celle présentée par Élise Lucet, qui parfois mettent le doigt sur des sujets qui font mal à la classe politique, et notamment ces dernières années à la majorité présidentielle, sur des affaires importantes, et puis... Il y a des révélations qui sont faites, et parce que justement, il y a une liberté et une indépendance des journalistes sur le service public qui permet et qui met parfois en difficulté certains acteurs de la politique actuelle. Donc voilà, quelle volonté il y a derrière ça, aujourd'hui je ne peux pas le dire, mais en tout cas, je peux dire les effets que ça va avoir. En effet, c'est une difficulté, une mise en danger de l'indépendance, une mise en danger des projets qui sont menés par les acteurs sociaux, culturels de l'audiovisuel. Et puis, quand on compare avec notamment nos voisins européens, les services publics de nos voisins européens, ils peuvent, eux, se projeter sur plusieurs années parce que la création, parce qu'un téléfilm ou
ça demande du temps.
Ou une enquête, ce n'est pas sur 2 mois, ce n'est pas sur 6 mois, c'est sur plusieurs, parfois sur plusieurs années. Et donc, il faut pouvoir se projeter aujourd'hui. On ne peut plus, ils ne peuvent plus se projeter, et donc ça va avoir un effet sur la qualité aussi. Et du coup, c'est un peu le serpent qui va se mordre la queue. Il va y avoir une baisse de la qualité parce que les moyens ne sont pas là. Du coup, on va dire, regardez le service public, il ne fournit plus un service de qualité, donc on privatise. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec la SNCF, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la téléphonie, et ce qui se passe aujourd'hui avec l'énergie et EDF. C'est on décrédibilise et on enlève les moyens un service public pour dire qu'il est moins efficace, moins efficient pour après l'ouvrir au privé. On est peut-être sur cette ligne-là.
Parlons financement et risque maintenant, on l'a déjà évoqué avant. Alors le financement via la TVA n'est pas pérenne, ça ne pourra pas aller au-delà de 2025 avec la réforme de modernisation des finances publiques, mais certains proposent ou ont proposé quand même des alternatives plus durables pour assurer le financement de l'audiovisuel public. C'est votre cas, Inaki et Chanise. Avec plusieurs de vos collègues de gauche, vous avez déposé une proposition de loi pour, je cite, « une contribution audiovisuelle universelle et progressive ». Et donc, avec le barème choisi dans cette proposition, les 8 millions de foyers les plus modestes ne paieraient rien. Les 4 millions de la tranche suivante, seulement 8 euros. Et ainsi de suite, hein, c'est progressif. Le plafond pour les ménages les plus aisés serait donc fixé à 220 euros. Pourquoi, pour vous, ce modèle, cette solution de taxe vous semble la meilleure ?
Eh bien, parce que ça permet à chacun de pouvoir contribuer à un service public, d'y avoir un attachement particulier et que ça soit adapté aux revenus de chacun. C'est un modèle qu'on a travaillé avec Julia Cagé, qui s'est penchée sur cette question-là depuis de nombreuses années, qui a mené de nombreuses recherches sur le financement, le fonctionnement du financement dans d'autres pays. Et voilà, on a exploré toutes les pistes possibles et on s'est rendu compte que c'est ce qui marche le mieux et c'est ce qui est accepté le plus aussi par la population. Je le disais tout à l'heure, les gens sont attachés au service public, sont attachés à leur émission quotidienne locale sur France 3, sont attachés au journal de 20h de France 2, sont attachés aux émissions de France Culture, de France Info, de France Inter, des émissions proposées par Arte. Donc, il y a un attachement. Le service public audiovisuel, c'est partie de notre vie et doit faire partie de nos vies pour les années à venir parce que c'est essentiel dans le fonctionnement de notre société. Donc, c'est de dire que chacun a la possibilité, doit financer ce service public-là et à en entendre aussi un service en retour. Donc, et puis, c'est une question d'égalité, de le rendre progressif parce qu'en effet, 138 euros pour tout le monde, pour plutôt ceux qui avaient un téléviseur, c'était plus juste. Aujourd'hui, il y a la nécessité de l'adapter et donc aussi de faire une mesure de pouvoir d'achat et donc de faire quelque chose de progressif qui permettra à chacun de pouvoir financer à la hauteur de ses moyens.
Donc pour vous, ça c'est plus en faveur du pouvoir d'achat, par exemple, que la proposition de supprimer avec 11,50€ d'économie par mois ?
Oui, parce que aujourd'hui les gens le payent plus sur leur feuille de taxe d'habitation, mais le payent tous les jours en allant à la caisse du supermarché ou en achetant des produits par le financement de la TVA. Donc c'est encore plus injuste et c'est en plus pas honnête, parce que les gens ne s'en rendent pas forcément compte.
Il y a quand même certaines personnes, certaines parties de la population qui est content, qui se réjouit de plus payer cette contribution à l'audiovisuel public, qui estime que, on voit souvent les accusations envers l'audiovisuel public, que ce serait un organe du pouvoir, soumis au gouvernement, au pouvoir en place, à la majorité. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là qui justement se réjouissent de ne plus payer, de ne pas payer, et qui ne veulent pas payer plus tard ?
Déjà qu'ils la payent toujours, mais d'une façon déformée et injuste. Voilà, la TVA, tout le monde la paye, chacun qui va faire ses courses, chacun qui participe, qui consomme dans notre société, paye la TVA et donc participe à ce financement-là. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que plus personne ne paye l'audiovisuel public. À ceux qui disent qu'ils ne veulent pas la payer, c'est quel modèle d'information on veut ? Est-ce qu'on veut des chaînes polémiques et politisées comme le sont CNews à faire à l'américaine, c'est-à-dire des Fox News, des CNN, où chacun a sa ligne politique et défend un candidat ou une vision politique. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le service public, il est pluraliste et il est surtout indépendant. Et justement, quand les gens disent que le service public est inféodé au pouvoir, non, ce n'est pas le cas. Mais par contre, la budgétisation pourra amener cette situation-là, où les budgets seront soumis tous les ans au vote de l'Assemblée et au bon vouloir du gouvernement. Et donc, qui pourra influer sur les choix éditoriaux et sur les choix de traitement de l'information à venir.
C'est là, c'est là le plus gros danger pour vous, que finalement la ligne éditoriale et le travail journalistique soit soumis à la budgétisation et donc au pouvoir en place, ou bien il y a d'autres risques, d'autres dangers qui sont supérieurs ?
Il y a plusieurs dangers et ce danger-là est conséquent. Hein. Et si on part du fait que la possibilité que le Rassemblement national vienne au pouvoir, qui aujourd'hui, hein, quand on se le dit franchement, est une possibilité. Mmh. Et quand on entend le discours aujourd'hui du Rassemblement national, on a tout à craindre sur cette budgétisation-là. Et donc, il y a cette problématique-là d'influence et de manque de liberté des journalistes, mais il y a aussi, aujourd'hui, et j'y reviens, mais aux moyens alloués pour pouvoir développer des projets, pour pouvoir mener des enquêtes, pour pouvoir faire évoluer et mettre en avant le système culturel français. Donc, c'est à la fois un risque pour le budget et un risque pour la liberté.
Mmh. Et que pensez-vous de la proposition d'Olivier Marleix, chef de file des députés LR, qui propose lui aussi une nouvelle taxe via une taxation de la publicité sur Internet ? Alors ça ressemble un petit peu à ce qu'avait voulu faire Nicolas Sarkozy, qui avait alors suscité la grogne des télécoms. Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition qui a au moins le mérite de prendre en compte la numérisation des pratiques ?
Alors, je pense que ce n'est pas la solution idéale, parce que sinon on l'aurait proposé non, et que du coup moi je défends ma vision et notre vision des choses et du travail qu'on a mené. Mais par le sujet est intéressant aussi de savoir aujourd'hui quelle régulation nous avons sur les médias numériques, parce qu'aujourd'hui il y a un manque de cadrage, un manque de contrôle et de ressources aussi sur les médias numériques. On le voit aujourd'hui, à chaque fois qu'on navigue, on est pris entre quatre pubs et des pop-up et des voilà. Donc il y a aussi une régulation du marché publicitaire sur le numérique, notamment quand on voit que Netflix annonce des publicités, des nouveaux abonnements avec ou plus sans pub. Voilà, il faut aujourd'hui que l'État français se penche sur cette question-là et puisse avoir tiré aussi une ressource. Et surtout quand on voit les GAFAM qui font le plus d'aménagements pour ne pas payer d'impôts, ça peut permettre de créer une source de revenus supplémentaires. Donc, c'est une piste à explorer, et plus largement, le milieu du numérique est à explorer pour nous en tant que législateurs. Je pense notamment, alors je sors un petit peu du sujet de l'audiovisuel, mais par exemple, la question des influenceurs, aujourd'hui, est au cœur des pratiques numériques et elle doit être régulée. Et c'est notamment ce que va porter Arthur Delaporte, mon collègue socialiste, lors de notre niche, et de réguler le milieu des influenceurs, et notamment les pubs qui sont faites et la mise en avant de produits pas forcément légaux ni de façon très, très encadrée. Donc oui, il y a quelque chose à faire sur le numérique. Après, est-ce que c'est le seul moyen pour financer l'audiovisuel public ? Je ne suis pas sûr.
Et justement, pour terminer sur ce sujet de la suppression de la contribution à l'audiovisuel public et de ses alternatives de financement, quel est l'avenir pour votre proposition de financement ?
Eh bien, écoutez, on continue de la mettre en avant justement dans ces interviews-là, publiquement, dire aux Français, bien, regardez, il y a d'autres solutions que cette suppression pure et simple. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un groupe de travail au sein de la commission qui a été mis en place sur l'avenir et les financements de l'audiovisuel public. Et on ne perd pas espoir que les députés, nos collègues de la majorité, qui se sont bien rendus compte de l'erreur qu'ils avaient fait en supprimant purement et simplement cette redevance, puissent enfin entendre l'appel de vérité et puisse revenir à des réalités concrètes, parce qu'on rend compte du coup maintenant, dans le cadre de cette mission, les différents partenaires et les différents acteurs de l'audiovisuel public, et ils entendent leurs craintes et les propositions qui sont mises sur la table. Donc j'ai bon espoir que les collègues de la majorité puissent agir en compromis, comme ça avait été promis et vanté par la Première ministre, qu'il puisse y avoir un compromis sur ce financement de l'audiovisuel public, qui est un des piliers de notre société, et qui est un des joyaux de notre société, et qui permet à la population d'avoir accès à la culture et à l'information de façon libre et indépendante.
Une chose est sûre, en tout cas, pratiquement tout le monde est d'accord pour le fait qu'il faut réformer, qu'il faut changer les choses là-dessus, mais peu de personnes sont d'accord entre elles. Nous verrons donc quel projet de loi passera, quel sera le mode de financement pérenne choisi. Merci Inaki et Chanise, députés, je rappelle, PS des Pyrénées-Atlantiques.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté cet épisode bonus. Tous les autres sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. N'hésitez pas à aller écouter notre autre podcast aussi, une émission quotidienne, Signaux faibles. À bientôt.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.